Lizzie présente Sur le toit de l'enfer d'Ilaria Tutti, lu par Nathalie Hans. À Jasmine. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Charles Baudelaire, une charogne. N'oubliez pas, nous marchons en ce monde sur le toit de l'enfer en regardant les fleurs. Kobayashi Issa, 1763-1828. Autriche, 1978. Une légende pesait sur cet endroit, de celle qui s'accroche au lieu, comme une odeur persistante. On racontait qu'en plein automne, avant que les pluies ne se transforment en neige, le lac de montagne relâchait de sinistres exhalaisons. Elle s'échappait de l'eau comme de la vapeur et remontait les pentes avec la brume matinale aux heures où le ciel se reflétait dans le bief. C'était le paradis qui se reflétait dans l'enfer. On pouvait alors entendre des sifflements comme de longs ululements envelopper l'édifice datant de la fin du XIXe siècle sur la rive est. L'école. C'était ainsi qu'ils l'appelaient en bas au village. Mais au fil des époques, ces murs avaient plusieurs fois changé de destination et de nom. Résidence de chasse impériale, Kommandantur nazi, sanatorium pour enfants tuberculeux. Aujourd'hui, dans les couloirs, il n'y avait plus que le silence et des murs décrépits, des stucs décolorés et les échos de bruit de pas solitaires. Et puis, en novembre, ces ululements qui surgissaient du brouillard et glissaient le long des fenêtres des étages supérieurs jusqu'au toit à versant miroitant de givre. Mais ces légendes ne s'adressaient qu'aux enfants et aux vieillards mélancoliques, à des cœurs trop tendres. Agnès Brown le savait bien. Elle avait élu domicile à l'école depuis trop longtemps pour se laisser impressionner par un gargouillement nocturne. Elle connaissait le craquement de chaque poutre, le grincement de chacun des tuyaux rouillés qui couraient à l'intérieur des murs, même si désormais les étages étaient en majorité fermés et les portes des salles barrées de planches clouées. Depuis que le bâtiment était devenu un orphelinat, les subventions étatiques étaient de plus en plus comptées et aucun bailleur de fonds privé ne s'était proposé de verser la moindre somme. Agnès traversa la cuisine située en entresol, entre les gardes-manger et la buanderie. Elle poussait devant elle un chariot, le manœuvrait entre les récipients qui, d'ici quelques heures, relâcheraient des nuages de vapeur graisseuse. Elle était seule à cette heure qui n'était pas la nuit et pas encore le jour non plus. Ne lui tenait compagnie que l'ombre furtive d'un rat et les silhouettes des carcasses mises à faisander suspendues dans l'ancienne chambre froide. Elle entra dans le monte-charge pour rejoindre le premier étage, l'aile dont elle était responsable. Depuis quelque temps, cette responsabilité suscitait en elle un trouble sans nom, comme l'abcès d'un malaise latent qui refusait de crever. Le monte-charge grinça sous son poids et sous celui du chariot. La cage s'ébranla, entama sa montée, s'arrêta au bout de quelques mètres avec une grosse secousse. Elle ouvrit la grille métallique. Le couloir du premier étage traçait un long ruban de couleur d'un bleu poussiéreux, taché d'humidité et ponctué sur un côté de grandes fenêtres à petits carreaux. Un volet battait à intervalles réguliers. Elle lâcha son chariot pour aller le bloquer. La vitre était froide et embuée. Elle l'essuya d'une main, y dessinant une sorte de hublot. L'aube éclairait peu à peu le village en bas dans la vallée. Les toits des maisons étaient comme autant de minuscules dominos couleur de plomb. Plus en hauteur, à 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer, entre le village et l'école, l'étendue immobile du lac se colorait de rose entre les bancs de brume. Le ciel était clair, mais Agnès savait que le soleil ne réchaufferait pas la clairière escarpée. Le matin, en se réveillant, elle avait posé un pied hors du lit et s'était sentie assaillie par la migraine. C'est ainsi qu'elle devinait le temps qu'il allait faire dans la journée. Le brouillard montait, absorbant toute chose. La lumière, les sons et même les odeurs s'imprégnaient de cette lymphe stagnante qui sentait l'os. Et des lamentations s'élevaient de ces volutes vaporeuses qui semblait prendre vie en s'accrochant à l'herbe brûlée par le gel. La respiration des morts, songea-t-elle. C'était le vent, le buran qui soufflait violemment du nord-est. Échappé des steppes lointaines, il avait parcouru des milliers de kilomètres pour finalement s'enfoncer dans le couloir de cette vallée en grondant contre les berges du fleuve en lisière de la forêt, se répercuter contre les francs-bords alluviaux et ressurgir en sifflant avant de se fracasser sur la paroi rocheuse. « Ce n'est que le vent !» se répéta-t-elle. L'horloge à balancier de l'entrée sonna 6 coups. Elle allait être en retard, mais Agnès ne bougea pas. Elle temporisait, elle le savait, et elle savait aussi pourquoi. « De la suggestion mentale, » se dit-elle. « Ce n'est que de la suggestion mentale. » Ses mains se refermèrent autour de la barre d'acier de la table roulante. Quand elle se décida enfin à s'avancer de quelques pas vers la porte du fond du couloir, les récipients tintèrent. Le nid. Une pensée soudaine lui noua le ventre. C'était vraiment un nid. Voilà ce que c'était devenu ces dernières semaines. L'endroit débordait d'une activité intense, mystérieuse. Comme un insecte industrieux, il préparait sa mue. Agnès en avait la certitude, même si elle n'aurait su expliquer ce qui se tramait dans cette salle. Elle n'en avait parlé à personne, pas même avec le directeur. Il l'aurait prise pour une folle. Elle plongea la main dans la poche de son uniforme. Ses doigts effleurèrent le tissu rêche de la cagoule. Elle la sortit et se l'enfila sur le visage. Une fine résille protégeait aussi les yeux, voilant le monde extérieur. C'était le règlement. Elle entra. La salle était immergée dans le silence. Quelques braises achevaient de se consumer dans le gros poêle en fonte à côté de l'entrée qui dispensait une tiédeur agréable. Il y avait 40 emplacements, alignés en 4 rangées de 10. Aucun nom sur les plaquettes d'identité, rien que des chiffres. On n'entendait ni pleurs, ni suppliques. Il lui aurait suffi de regarder et elle savait ce qu'elle aurait vu. Des yeux inexpressifs, éteints. À tous les emplacements, sauf un. Maintenant qu'elle s'était habituée au silence, elle pouvait l'entendre. Il gigotait là-bas dans le fond. Il prenait des forces. Il se préparait. À quoi elle n'aurait su le dire. Peut-être était-elle vraiment folle. Un pas après l'autre, elle s'approcha de l'emplacement numéro 39. Contrairement aux autres, ce patient palpitait de vie. Ses yeux si particuliers, si vifs, aux aguets, suivaient ses moindres mouvements. Agnès comprit qu'il cherchait son regard derrière la résille de la coiffe. Gênée, elle détourna la tête. Le sujet numéro 39 avait conscience de sa présence et pourtant il n'aurait pas dû. Elle vérifia qu'aucun garçon de salle ne se montre à la porte et pointa le doigt. Le sujet mordit, serra la chair entre ses gencives avec force. Dans ses yeux-là, elle vit un regard différent. Un regard de possédé. Elle recula en lâchant un juron et une brève lamentation nerveuse s'échappa des lèvres du sujet. « Voilà sa vraie nature, » se dit-elle. « Carnivore. » Ce qui se produisit l'instant d'après la convainquit qu'elle ne pouvait plus garder certaines pensées pour elle. Les sujets voisins du numéro 39 avaient cessé d'être muets. Leur respiration était plus agitée, comme s'ils répondaient à un appel. Le nid frémissait. Enfin, tout cela n'était peut-être que suggestion mentale.